Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2.
Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux pour écouter ce soir Dominique Martre, qui est accompagnée donc de Guillaume de Gracia des éditions Sans Nom, et donc elle est là pour vous présenter son livre La Kabylie en partage. Voilà, bonne rencontre.
Bonsoir à toutes et à tous. Je prends juste la parole quelques instants en tant que membre des éditions Sans Nom. Déjà pour remercier très chaleureusement la librairie Terra Nova et son équipe avec qui on avait prévu déjà l'année dernière de faire une présentation de notre travail et qui n'a pas pu aboutir du fait de la situation éco-socio-sanitaire. Hein. Voilà, donc merci à eux de nous recevoir et de ne pas avoir désespéré de nous recevoir puisque ça a été annulé plusieurs fois. Voilà, donc juste 5 minutes, vu que c'est la première fois en fait depuis le lancement des éditions Sans Nom, à savoir le 24 janvier 2020. Donc c'est la première fois qu'on refait un événement à caractère un peu public, officiel. Donc c'est une maison d'édition qui n'est peu ou pas connue. Et qui donc, on s'est dit que c'était peut-être pas mal de faire un tout petit chapeau introductif sur ce projet éditorial avant de laisser évidemment la parole à Dominique qui est la star de la soirée. Mettons les cadres, bornons. Donc tout simplement pour dire qu'en fait ces éditions elles sont très jeunes, hein, ça fait à peu près 3 ans qu'on en a lancé l'idée avec Agnès et Hugues qui ne sont pas là ce soir. Une petite idée qui, pour l'anecdote, on l'écrira un jour et on le laissera sans doute sur notre site, mais pour l'anecdote, cette maison d'édition vient d'une réponse à une arnaque qu'on a subie en 2018. Quelqu'un qui s'appelait Patrick Milonneau, qui avait monté un salon du livre qui devait être le cinquième plus grand salon du livre français et qui devait s'appeler les Estives du livre de Luchon, qui en fait s'est avéré être une vraie belle arnaque à l'ancienne, hein, 300 auteurs et autrices arnaqués, dont Patrick Poivre d'Arvor par exemple. Et donc on s'est retrouvé en catastrophe à réorganiser un salon du livre à Luchon, et dans la discussion qui a suivi en fait ce salon du livre et le succès mitigé, mais bon, quand même, petit succès de ce salon du livre, on s'est retrouvé à discuter avec Hugues et Agnès, à se dire que ce serait peut-être pas mal d'approfondir, d'enfoncer le clou, et en fait, on a monté du coup en conséquence cette maison d'édition. Voilà, cette maison d'édition, d'entrée de jeu, elle a eu la volonté de s'ancrer dans un travail le plus horizontal possible, ce qui explique que son mode de fonctionnement associatif est collégial. Hein. La collégiale, c'est un système qui permet en fait de ne pas avoir officiellement ni de président, ni de secrétaire, ni de trésorier, mais en fait tout fonctionne avec l'ensemble des membres du conseil d'administration. Voilà, donc ça, on y tenait très d'entrée de jeu. Et une volonté aussi de fonctionner sur on va dire un terreau local, hein. On pourrait parler de livrovorisme pour faire un néologisme en lien avec l'idée de locavorisme, hein, le fait de manger des produits qui sont proches de chez nous. Puisque on veut rencontrer les auteurs et les autrices et les auteurs avec qui on va travailler. On veut pouvoir discuter avec eux et elles des projets éditoriaux, les monter le plus possible. Évidemment, on n'écrit pas à plusieurs mains les textes, mais par contre, pour ce qui concerne le reste, on essaie de fonctionner le plus horizontalement possible de ce point de vue. Et anecdote aussi, on travaille avec une coopérative éditoriale qui s'appelle Scopy, enfin qui n'a pas le statut coopérativiste exactement, mais enfin bon, c'est ils travaillent à trois et de manière tout à fait égalitaire aussi, qui s'appelle Scopy et qui est aux routes de Seis. Voilà. Donc on essaye, dans la mesure du possible, d'être le plus en lien avec les acteurs Terra Nova, les frères Flory, par exemple, librairie de la Colombette. Donc on essaie d'être le plus en lien avec les acteurs du réseau du livre local et le plus possible. Voilà. Bon, on va pas, je vais pas plus, comment dire, insister sur les éditions. S'il y a des questions éventuellement après la présentation de Dominique et les questions sur le livre de Dominique, on pourra toujours y revenir. Simplement, pour lancer le débat et donc servir de marchepied à la présentation donc de Dominique. Moi, alors il se trouve qu'on partage une formation un peu commune, puisque je suis aussi de formation d'anthropologue à la base, et le travail que nous a proposé Dominique, c'est un peu ce que moi, à titre personnel, j'aurais bien aimé faire après mon travail universitaire dogmatique et un peu plombant, à savoir une espèce de alors le terme vulgarisation est peut-être en français un peu péjoratif, mais pas dans mon vocabulaire en tout cas, et pas dans ce que je veux désigner là. C'est-à-dire que très très sincèrement, l'écriture de Dominique et le travail qu'elle a pu faire sur ce livre, moi à titre personnel, m'a rendu un peu jaloux sur ce que j'aurais aimé pouvoir faire par rapport à mes propres travaux en anthropologie. Et peut-être du coup, alors c'est une des questions que je poserai un peu tout à l'heure, mais bon, sur le côté rétrospectif de ton travail et de tes études qui sont venues, si je me souviens bien, un peu après le fait d'avoir accumulé en fait du matériel de terrain. Mais là, bon, dans un premier temps, peut-être tout simplement pour lancer le débat, la question que j'aimerais te poser, c'est savoir d'où tu parles en tant qu'autrice, en tant qu'auteur. On a retenu le terme auteur en fait au sein de la maison d'édition et pas autrice. Bon, alors voilà, en tant qu'auteur. Voilà. Donc à quel endroit te situes-tu pour parler à partir de ce livre? Voilà.
Donc je suis ravie que vous soyez là et je pense, je voudrais remercier bien sûr Terra Nova de m'accueillir, aussi les éditions Sans Nom. C'est une aventure là. C'est la première fois que je suis publiée aux éditions Sans Nom, mais aussi en fait parce que c'est important, j'y reviendrai. On est trois autrices, trois auteureux à être publiés en même temps. Donc là on a deux dans la salle qui sont Françoise Longeard et Bénédicte Rossignol. Et je crois que c'est important parce que, en fait, c'est important pour moi parce que c'est vraiment d'abord pour moi des récits de femmes. Hein. Avant, effectivement, je suis venue à l'ethnologie, comme tu le dis, Guillaume, mais j'y suis venue plus tard. C'est-à-dire qu'au début, ce qui s'est passé pour moi, c'est toute l'aventure de ce livre. C'est que il m'est arrivé que j'étais mariée à un étudiant en médecine qui a décidé de faire son service militaire au titre de la coopération en Afrique. Et voilà, j'étais très contente de l'idée et je suis arrivée à Mchedala en Kabylie, comme ça. Et j'avais 22 ans. Et j'arrivais de ma Bretagne. Et pour moi, ça a été vraiment un choc absolument inouï que de découvrir la Kabylie d'une part, évidemment. C'est pas de Douarnenez. Mais aussi tout ce que j'y ai vécu, puisque j'ai eu la chance véritablement de rencontrer les gens et notamment les femmes. C'est pour ça que c'est important pour moi. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être une femme. On dit pas ça toujours, qu'on a de la chance d'être une femme. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment eu la chance d'être une femme parce que, eh bien, je pouvais, en tant que Française, aller dans la rue, faire mon marché, travailler, puisque j'étais la seule enseignante du collège, qui est un gros collège. J'étais la seule femme, toute jeune femme qui enseignait. Mais évidemment, comme j'étais femme, eh bien, j'ai été aussi invitée, notamment par mes élèves au début, puis par leur mère, dans toutes les maisons. Et c'est ça, au début, moi, qui m'a vraiment éberluée. Enfin voilà, j'avais l'impression de vivre quelque chose d'absolument inouï, ce qui était vrai d'ailleurs, de tout à fait inédit pour moi. Et donc au début, je pensais pas du tout à l'ethnologie, je pensais juste à ce que j'étais en train de vivre, et je trouvais ça tellement étonnant, tellement extraordinaire, que j'écrivais. Voilà, j'ai écrit tous les jours mon journal, tous les soirs. J'ai écrit, j'ai des milliers de pages, en fait. Je racontais tout ce que je vivais, tout ce que je voyais, etc. Au début, d'ailleurs, c'était des lettres à mes parents. parents. Puis comme j'ai vu que ma mère, ça l'intéressait, elle le diffusait auprès de d'amis, de famille, etc., notamment tout ce que je racontais sur les mariages, les événements, les récits de femmes, etc., ben, j'ai continué. Et puis, voilà, je suis arrivée, je suis revenue en France, j'avais 23 ans. Et au début, je me suis dit, je dois faire quelque chose avec ces histoires qu'on m'a racontées. Et au début, c'était vraiment ces histoires de femmes, c'était ces récits. C'était des choses qui m'avaient bouleversée, en fait, de leur vie. Elles m'avaient fait confiance, hein, elles m'ont fait des confidences. Et puis, j'ai beaucoup observé aussi, j'ai beaucoup vu. Enfin, j'ai vraiment vécu avec elles. Alors j'ai essayé d'écrire des nouvelles, j'ai essayé d'écrire un roman, j'ai essayé d'écrire plein de choses et puis j'ai dû aussi bosser comme tout le monde et puis donc j'avais tout ça dans la tête et j'en ai pas fait grand chose en fait sauf des essais. Si j'ai des bouts de romans, j'ai des tas d'écrits partout. Et puis c'est beaucoup plus tardivement donc que j'ai rencontré l'ethnologie. D'un coup, et ça a été une prise de conscience pour moi, je me suis dit, mais j'ai un matériau absolument fabuleux. C'est-à-dire que, en fait, j'avais tellement écrit de choses, et tellement précis, parce que je décrivais les choses, en fait. Je me suis rendu compte que c'était un matériau ethnographique, je dirais pas, voilà, au début. Et donc, du coup, c'est ce livre, en fait, qui m'a amené à faire des études d'ethnologie. Donc, je travaillais déjà, j'avais fait des études de lettres, etc. C'était déjà, j'avais, je sais plus quel âge, parce que tout ça a duré un certain temps, mais enfin, plus de 30 ans. Et donc, je suis retournée à la fac tout en travaillant à Paris 8, puis à l'école des hautes études en sciences sociales. Et puis, voilà, mon idée était effectivement d'aller plus loin dans la question des femmes au début, etc. J'ai eu des petites parenthèses et je suis passée sur un autre sujet. Je suis revenue beaucoup plus tardivement à la Kabylie, d'une drôle de manière, c'est-à-dire que je me rendais compte qu'à chaque fois que je racontais ces histoires, que ce soit d'ailleurs en Algérie, parce qu'il y avait beaucoup de coopérants qui, en fait, vivaient entre eux et ne vivaient pas chez les gens, avec les gens, comme moi je le faisais. Ça intéressait beaucoup tout ce que je racontais. Et donc, un jour, j'ai rencontré, voilà, j'étais au CNAM, je travaillais, je formais des gens, et j'ai rencontré Claudine Vassas, et je lui ai dit, voilà, je suis en train de vouloir faire une thèse à l'époque, voilà, j'avais fait une maîtrise, un DEA, etc., une thèse sur la transmission dans les entreprises familiales, c'était un peu mon histoire, ça n'avait pas l'air de la brancher beaucoup, et puis au bout d'un moment, on déjeunait, donc elle m'a dit, à part ça, qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, j'ai raconté, puis j'ai commencé à parler de la Kabylie. Et là, elle s'est vraiment intéressée. C'est une ethnologue, Claudine Vassas. Elle n'est malheureusement pas là aujourd'hui, mais en pensée avec nous. Et donc, elle, ça l'a intéressée beaucoup. Et puis, à la fin du repas, elle m'a dit, je ne comprends pas, Dominique, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne fais pas une thèse sur ce que tu as vécu, sur la Kabylie? Et là, je suis restée un peu éberluée. J'ai dit, mais bien sûr, c'est bien sûr. Hein. Et finalement, donc, du coup, elle m'a accompagnée. Donc, dans un projet de thèse qui a duré 10 ans, mais qui n'a pas vu le jour non plus, parce que je travaillais, parce que tout ça, parce qu'en plus, toute la littérature ethnologique sur la Kabylie, c'est énorme. Il y a une théorie gigantesque, hein, Bourdieu, La cause du jardin, Fabre Sada, et alors toute la littérature sur la colonisation, les militaires, etc. Bon, j'en sortais plus. Par contre, j'ai fait tout un travail qui m'a beaucoup intéressée. C'était plus les femmes, puisque en fait, c'était pendant le terrorisme. Donc, je ne suis pas retournée en Algérie à ce moment-là. Mais en revanche, je me suis remise en relation avec les hommes des familles donc que j'avais rencontrées, donc de mes élèves, certains de mes collègues, enseignants aussi, et je les ai rencontrés sur Paris. À Paris, il y a des bistrots kabyles, c'est bien connu. Et il y en a 5, en fait, qu'on appelle les bistrots maillotins, donc qui sont vraiment les bistrots où se rencontrent, en fait, les hommes des familles de Mayo. Mayo étant le nom du village de colonisation, qui s'appelle maintenant Mchedala, qui s'appelait Mchedala quand j'y suis arrivée, parce que c'était après, l'indépendance. Et donc, c'est des endroits où on communique, on échange absolument sur tout. Donc, on a beaucoup écrit, d'ailleurs, sur les bistrots kabyles. Ça a été aussi des endroits qui ont été très importants pendant la guerre de libération. Hein, ça a été des plaques tournantes, mais ça demeure des lieux d'échange. Voilà, donc j'ai repris contact avec les familles par ce biais-là. J'ai aussi revu certaines femmes donc qui avaient immigré à Paris, l'une qui voulait immigrer, qui est venue chez moi à Toulouse après. Voilà, donc j'ai renoué avec toutes ces histoires. Et puis, comme j'avais ce projet de thèse, j'ai aussi, bien sûr, outre tout ce que j'ai pu lire, été dans les archives. Et notamment, j'ai récupéré beaucoup de matériaux intéressants sur la création de ce village de colonisation. Puisque Mayot, en fait, c'est un village qui s'est bâti, comme beaucoup, en Algérie, sur les bases des terres qu'on a séquestrées. C'est-à-dire, il y a eu cette lutte de Mokrani, voilà. Et pour punir les Kabyles, voilà, en répression, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on les a privés, on les a dépossédés de leurs terres. Et sur ces terres, on a créé des villages qu'on appelle les villages de colonisation. Donc, Mayot est un village de colonisation. Qui porte le nom d'ailleurs d'un médecin militaire qui a inventé la quinine. Voilà, j'ai trouvé des matériaux que je trouvais très très intéressants sur la manière dont on avait construit. Alors c'est tout à fait passionnant. Voilà, et donc j'ai restitué aussi aux gens de Mayot, après, plus tard, en fait, des documents auxquels ils ne peuvent pas avoir accès puisque c'est dans les archives d'Aix-en-Provence et surtout de là-bas dans le sud, les archives de près de Montpellier. Mais non, les archives Aix-en-Provence, voilà, Aix-en-Provence, absolument. Voilà, et donc je leur ai restitué évidemment des éléments qu'ils n'avaient pas, etc. Et entre-temps, voilà, j'ai été saisie d'une demande d'un habitant de Mayot que je ne connaissais pas, dont j'avais eu un des frères en classe, et qui, lui, voulait absolument écrire l'histoire de son père qui avait été, pendant la colonisation, accusé injustement d'un crime et envoyé à Cayenne. Il avait fait Cayenne pendant 20 ans, il en était revenu sauf, et en plus comme un héros. Et lui, en fait, voilà, il voulait absolument avoir des informations, il ne pouvait pas y accéder non plus. Et donc, j'ai également été chercher des informations sur toute cette histoire. Voilà. Et donc, je travaillais comme ça, tous azimuts, surtout à Paris, dans les... Voilà. J'ai pas abouti parce que j'avais pas le temps. Et puis, un jour, j'ai dit à Claudine, écoute, j'y arrive pas. Elle m'avait dit, écoute, c'est pas grave. Le jour, entre-temps, j'avais écrit un autre récit qu'elle m'avait aidé à publier. Donc, elle m'a dit, le jour où tu veux écrire, avec tout le matériau que tu as, tu n'es pas obligé de faire une thèse, mais tu peux écrire quelque chose qui sera intéressant, etc. Et donc, elle m'a aidé jusqu'à maintenant, hein, donc, pendant ces dernières années. Voilà, donc, tu vois, l'ethnologie, en fait, c'est arrivé comme ça à un moment donné. Donc, mon ouvrage n'est pas un ouvrage d'ethnologie classique. D'ailleurs, Tassadit Yassine, qui en a fait la préface, me l'a dit. Néanmoins, ça l'a intéressée, parce qu'elle a trouvé que c'était intéressant que je puisse rentrer dans les maisons des femmes et raconter ce que je raconte. Mais ce n'est pas au sens académique un ouvrage ethnologique, quoi. Ouais, il a un socle quand même d'ethnologie.
Je ne sais pas comment on voulait organiser la soirée. On peut faire des allers-retours aussi. S'il n'y a pas de questions maintenant, j'ai des questions aussi que j'aimerais poser à Dominique. Mais s'il y a d'ores et déjà des questions, on peut peut-être faire tourner le micro aussi, si vous le souhaitez. Sinon, puisqu'on parle d'ethnologie, effectivement. Ce n'est pas un travail d'ethnologie, enfin, c'est pas un travail au sens classique du terme de ce que vous allez pouvoir trouver dans le rayon ethnologie ou anthropologie de Terra Nova, effectivement. Par contre, déjà, tu as fait un terrain préalable long, qui est ce que, et avec une participation concrète, une observation participante, comme diraient les collègues, dans les maisons, dans les différents événements que tu décris dans ce livre. Et moi, j'aimerais savoir donc, le fait que tu aies après forgé des armes d'ethnologue, qu'est-ce que ça rétrospectivement en fait éclairé sur ton terrain et qu'est-ce que ça peut-être, enfin des éléments qui ont peut-être été mis en valeur, d'autres qui ont été peut-être déconsidérés du coup. Qu'est-ce que le fait de te plonger dans la méthode anthropologique ou ethnologique t'a permis de, enfin de reconsidérer en fait le terrain que tu avais fait et l'expérience que tu avais menée à Mayo?
Non, je dirais que ça. Non, finalement, en fait, je faisais de l'ethnologie sans le savoir en fait, en réalité, si tu veux. Donc, ça a pas vraiment changé les choses. Simplement, oui, je me suis rendu compte que moi, ce sont des récits que j'écris, donc des histoires de femmes. Elles s'inscrivent évidemment complètement dans tout ce qui peut être décrit par ailleurs, évidemment, ne serait-ce que par Bourdieu, qui a quand même été un des grands théoriciens de la Kabylie. On retrouve tout, mais quelque part, je baignais déjà dedans. Après, le mot récit est arrivé tardivement. C'est Leïla Sebar, donc qui est une romancière en fait, à qui j'avais envoyé mon texte, qui l'a beaucoup intéressée. Et c'est elle qui m'a dit en fait, ce que vous écrivez, ce sont des récits. Voilà, c'est pas un roman puisque elle c'est une romancière. C'est pas des histoires fictives, ce sont des récits. Mais ça m'a d'ailleurs posé problème parce que c'est vrai dans l'entretien, elle le dit, j'ai eu un entretien à la fin avec Claudine Vassas et Leïla Sebar. Et Claudine Vassas, elle dit, c'est vrai en anthropologie par exemple, on ne fait pas relire les choses. Enfin, dire quelque part, voilà, on fait son travail d'ethnologue et basta. Et Leïla Sebar disait, moi, je fais rien lire non plus. Moi, je suis une romancière. Donc, en fait, en gros, je me permets ce que je veux. Et moi, je suis dans un entre-deux qui est très inconfortable, qui a été très inconfortable à certains moments, parce que ce sont des gens que j'ai côtoyés et j'ai même des amis. Donc, il y a une histoire, il y a Assina, par exemple. Je parle d'Assina. Elle s'appelle pas Assina, mais j'ai changé tous les noms, justement pour respecter les personnes. Assina, je l'ai suivie, donc ça a été mon élève, elle avait 16 ans, c'était la première qui m'a fait rentrer... Oui, Assina, c'est Assina, c'est une amie, je lui ai donné le nom d'une amie kabyle, mais c'est Assina. Et en fait, c'est la première qui, un jour, m'a invitée chez elle. Et après, ça a suivi, puisque ses copines ont fait pareil, j'ai été dans les maisons comme ça. Et Assina, elle a repris contact avec moi parce qu'elle voulait émigrer. Donc j'ai fait des papiers pour elle, ses filles, et tout ça. C'est une histoire assez bouleversante d'ailleurs parce que finalement, elle a réussi à émigrer. Elle est aujourd'hui en Espagne. Le problème, c'est qu'elle avait deux jeunes enfants, un mari qui était déjà parti en Espagne. Elle n'aurait pas voulu partir de l'Algérie. Elle est partie sur la pression de son mari et de ses enfants. Et le problème, c'est que les deux aînés sont restés à Mchedala. Très très longtemps, des années. Ça a été pour elle un déchirement inouï. Sauf que je l'ai revue avec Michel, on l'a vue l'été dernier, en 2020. Et maintenant, toute la famille, elle a réussi à faire venir, mais les filles étaient mariées avec des enfants, etc. etc. Donc elle, je l'ai suivie tout le temps. Donc je me suis dit, à un moment donné, j'ai écrit sur elle tellement de choses, elle et toute sa famille, en fait. C'est la première qui m'est amenée dans un mariage. J'ai écrit des choses très... très personnel parce qu'il me racontait des choses, quoi, enfin toute la famille. Et donc j'ai été la voir et j'ai relu avec elle. J'ai relu avec elle toute la partie qui lui correspond. Et puis c'est un peu la personne qui traverse quand même tout le livre. Hein, c'est... Et donc elle était marrante. Elle me dit bah oui, j'assume tout ça. Enfin bon, moi je m'en fous complètement. De toute façon, c'est vrai ce que tu as écrit. Enfin voilà, c'était pour moi important en fait qu'elle puisse dire des choses comme ça. Elle m'a fait retirer des petits trucs et elle avait raison. C'était quand j'y étais retournée parce que moi je suis retournée après à Mchedala. Dès que j'ai pu, je suis retournée. Je suis retournée en 2004. Enfin après le terrorisme, je suis retournée une première fois. J'ai réussi à avoir un contrat par le biais de l'ENA Alger. Et dès que j'ai pu, pof, je me suis carapatée à Mchedala pour aller voir. Donc j'ai vécu chez des gens, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait rien du tout. Ça craignait encore un peu. Assina n'était pas là, elle était en Espagne, mais j'ai été accueillie chez ses parents. Et j'ai connu ses filles. Et alors, elle m'avait fait des confidences. Et moi, je racontais les confidences d'une fille qui parlait de son petit copain et tout ça. Et alors, Assina m'a dit, mais ça, c'est pas possible que tu mettes ça. Tu te rends compte, elle est mariée, mais c'est pas le même. Donc, voilà. Donc, genre de truc, j'ai dit, d'accord. Bon. Mais c'était des choses comme ça. Mais sur l'essentiel, en fait, de ce que j'avais écrit, elle m'a dit, c'est complètement juste. Après, bien sûr, elle me dit aussi, de toute façon... ce que je disais, les gens de Mchedala, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que mes récits sont durs, parfois très durs, sur la question des femmes, etc. Je me dis oui, mais bon, en même temps, t'es une Française aussi, donc tu as un regard de Française. Ils diront si. Et c'est ça quand même toute cette position. C'était à la fois comment dire. J'ai écrit des choses très très personnelles et très intimes. C'était pas très confortable de tout le temps, mais j'ai voulu vraiment écrire les choses réelles. C'est pas romancé. Parfois, j'ai changé à la marge des choses. Outre les noms, j'ai parfois imputé à d'autres personnes des choses pour ne pas, parce que les gens vont forcément se reconnaître, parce que c'était des familles qui étaient très connues à Mshedala. Donc, quand je parle de la jeune Allemande qui est arrivée dans la grande maison Suissi, que j'appelle Suissi, bon, bah, on sait bien qui c'est. Donc, on va évidemment retrouver qui c'est. Donc, ça, j'ai pas eu de retour là-dessus, mais bon. Et je dis des choses, dont que les gens bien sûr vont se réapproprier. Donc mon souci c'était ça, c'était de, j'ai pas pu faire avec eux tout ce que j'ai fait avec Hassina. Et puis c'était risqué aussi, c'est-à-dire que des gens auraient pu me dire ça c'est pas possible que t'écrives ça. D'ailleurs ça a failli m'arriver parce que je suis allée donc à Paris aussi voir celle que j'appelle Miassa et son mari que j'appelle Messaoud. Et comme il s'agit d'une rumeur de viol, quelque chose de très très lourd, au début ils m'ont dit tu t'arrêtes, t'enlèves ça complètement. Je dis ça c'est pas possible, c'est pas possible, c'est cette partie-là est très importante. Donc je suis allée chez eux et j'ai revu, mais à la marge aussi finalement le récit est très peu changé. J'ai changé des termes qui se trouvaient un peu excessifs, etc. Mais finalement l'histoire est inchangée, juste les noms sont différents. Voilà. Le seul Bachir, le seul qui a vraiment compagnonné avec moi complètement, comme Hassina, mais d'une autre manière, c'est Bachir, c'est la dernière partie. Parce que dans mon livre, en fait, il y a une première partie qui raconte l'histoire du village, mais où je tisse à la fois ce que j'ai lu, ce que j'ai vu dans les archives, mais ce qu'ont dit les gens. Et donc, c'est cette histoire qui démarre effectivement au moment de la colonisation, qui continue après, et il y a tous les mouvements berbères, et après il y a le terrorisme, après il y a tout ça. Voilà, il y a cette partie-là qui est à la fois, qui a quand même un socle un peu effectivement historique, un peu sociologique, un peu ethnographique. Après, ce sont des récits vraiment centrés sur les femmes. Il y en a donc un, c'est les maisons, un autre c'est le collège, un autre c'est plutôt les personnels de santé, les infirmières, etc., qui étaient tellement mal vus par la population. Et la dernière partie, c'est Bachir, cette histoire de cet homme qui est parti à Cayenne. Alors lui, il était très content parce que lui, depuis longtemps, en fait, il voulait raconter cette histoire pour en fait laver l'honneur de son père, pour montrer aux gens de la famille, aux gens du village, que son père était quelqu'un d'atypique et de remarquable et tout ça. Donc lui, il m'a dit « Dominique, tu changes rien, tu mets tous les noms donc de sa famille, etc. » Donc celui-là, c'est pareil, j'ai sa caution, mais c'est facile, c'est plus facile, je dirais, parce que en fait, c'est ce qu'il voulait faire lui-même. Alors il a écrit un bouquin... En anglais, quelqu'un lui a écrit un bouquin, il n'était pas content. Par contre, bon, mon chapitre, il s'y retrouve complètement. Voilà. Mais voilà, donc ce positionnement en fait qui est un peu atypique parce que je tenais beaucoup. Tout ce que j'ai écrit est vrai. Tout ce que j'ai écrit, je l'ai vu, je l'ai entendu. Et en même temps, j'ai voulu respecter les personnes dont je parle. Et je ne sais pas d'ailleurs au jour d'aujourd'hui comment vont réagir certaines personnes que je n'ai pas revues, à qui je n'ai pas fait relire les parties qui les concernent.
Je crois juste qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a oublié complètement de préciser en introduction, c'est que ce livre, les éditions Sans Nom le publie en France, mais en fait le maquettage, la mise en page a été donnée à une maison d'édition algérienne qui s'appelle Coucou Édition, qui donc normalement devrait éditer donc de l'autre côté de la Méditerranée d'ici, alors aux dernières nouvelles, a priori au courant du mois de novembre, aussi le livre de Dominique, mais sous une forme de restitution aussi de ce livre, de cette expérience et de ce travail. Mais effectivement, et donc pour reprendre tout à l'heure, c'est vrai que la question de la restitution, elle n'est pas forcément évidente pour un sociologue ou un anthropologue, puisque un anthropologue d'autant moins que, d'autant plus plutôt que souvent les terrains sont quand même assez éloignés, et c'est assez admirable effectivement que tu aies réussi à maintenir ce relationnel avec les personnes dont tu parles, et que tu aies réussi à finalement si peu amender ton travail et ce que tu voulais écrire par rapport à ça. En revanche, il y a quelque chose qui est très, puisque c'est pas, enfin, ta position à toi en tant qu'expatrié qui t'intéresse dans ce livre, dans ce récit, mais donc du coup, c'est très peu évoqué, dans le cadre de ce travail-là. Mais toi, à l'époque, quelle était, justement, tu l'as dit, en tant que femme, dans une période où, on va pas refaire de l'histoire, mais voilà, cette position-là, elle est pas forcément évidente ni en France ni en Algérie, juste après ou très peu de temps après l'indépendance. Toi, ta position à ce moment-là, comment tu l'as vécu? Parce que ça, effectivement, on en a absolument que de très rares, moments, on peut en avoir une petite intuition, mais en fait, tu l'abordes absolument pas.
Oui, j'ai voulu m'effacer, c'est-à-dire que je suis là tout le temps, puisque je raconte, mais je parle pas de moi, je parle pas de ma vie. Donc ça, c'est sûr. En fait, ce qui m'a étonnée, ce qui m'a d'ailleurs totalement bouleversée, je connaissais l'Algérie parce que mon mari, c'est pas mon mari actuel, c'était mon mari de l'époque, était de famille pied-noir. Donc, moi, de Bretagne, déjà, j'avais atterri dans cette famille pied-noir qui, pour moi, était très exotique. Déjà, ça la soupe au pistou, tous les trucs, le couscous et tout ça, moi, c'était pas du tout mon truc. Mais aussi, toutes les histoires qu'on racontait, puis c'était des gens qui avaient, évidemment, extrêmement mal vécu 1962. C'est-à-dire, la grand-mère de mon mari, on avait dû la forcer à aller dans un bateau. Elle était d'origine espagnole. En plus, c'était des gens, c'était pas des gros colons, comme beaucoup de pieds noirs. Hein. C'était eux, ils étaient maltais d'origine, de l'île de Gozo à Malte, où ils avaient pas de quoi bouffer. Et donc, à un moment donné, ils ont émigré. Donc, c'est le grand-père, quoi, qui avait émigré, qui est arrivé à Alger. L'arrière-grand-père, puis le grand-père s'est installé, il avait une petite boutique d'horreur sur cadre, vraiment au pied de la Casbah, à Bab El Oued, et il jouait les Maltais, les Espagnols, les Italiens, avec les petits Arabes, voilà, tout ça dans les rues. Mais c'était une famille qui avait évidemment une nostalgie énorme de l'Algérie et du ressentiment, etc. Donc j'avais connu l'Algérie par leur biais. Ils ont été épouvantés de savoir qu'on partait là-bas. Pour eux, c'était terrible de retourner là-bas. Voilà. Mon beau-père et ma belle-mère sont venus, mais on les a quasiment pas vus. Pour eux, on a très peu communiqué. Alors que mon beau-père avait quand même écrit Les pétards de la Casbah, un bouquin autobiographique quand il a su qu'on partait là-bas. Mais voilà, on en était resté là. Et pour eux, c'était déchirant et ça les a bouleversés complètement. Et moi, en revanche, ce qui m'a bouleversée, c'était que c'était les années 70. On était vraiment très peu après la guerre de... Voilà, la guerre avait été terrible, comme partout en Kabylie. Et on voyait les forêts napalmées, etc. Quoi. C'était, et on nous en parlait. Mais c'est vrai qu'on a été accueillis. Enfin, moi, j'ai eu le sentiment d'avoir été accueillis. Mais vraiment, voilà, les gens disaient, c'était la guerre, c'était comme ça. Mais nous, on n'a pas, dans d'autres coins, notamment à Constantine, et pour cause, hein, parce que ça avait été plus que dur dans cette période. Là, c'était les Français, etc. Enfin bon, c'est très très inhospitalier. On nous parlait pas, on nous crachait dessus et tout ça encore à cette époque-là. Mais à Mchedala, jamais. Et voilà. Alors. Comment j'ai vécu ça, moi, en tant que femme? Donc, j'étais contente de pouvoir être dedans-dehors, je dirais. Mais je me suis complètement trompée. Mais j'étais très jeune, quoi. J'avais 22 ans. Et donc, moi, je me disais, ils vont voir les gens qu'on peut être quelqu'un de bossé et être quelqu'un de bien. Voilà. Et je pensais que j'allais presque, en fait, faire changer les regards des hommes sur les femmes et que les femmes qui étaient toutes cloîtrées à la maison, puisque c'était un village, en fait, de colonisation où l'habitude avait été de cloîtrer les femmes. Et on le sait, pendant la guerre de libération, même si les femmes ont eu un rôle très important pendant la guerre de libération, après, on les a rebouclées. Et en tout cas, là, c'était pas du tout un des villages de montagne où on va à la fontaine et tout ça. Il n'y avait pas de fontaine. Voilà. Et les femmes étaient... Moi, je savais, quand je passais dans les rues chercher mon pain, À la fin, j'en pouvais plus d'ailleurs. Je savais dans les maisons qui étaient là et qui étaient ces femmes qui étaient enfermées. Je les connaissais. Elles étaient très nombreuses, parfois comme la grande maison suicide, une trentaine quoi. Je connaissais tous les drames aussi de toutes ces femmes qui étaient là-dedans. Voilà. Et moi, je m'étais dit, ils verront bien que je suis quelqu'un de bien, que je travaille, que je sors, mais que... Voilà. En fait, c'était une erreur totale parce que, en fait, pour eux, je restais la Française, évidemment. C'est ce que j'ai appris. En outre, bien sûr, il y a eu des rumeurs sur mon compte, c'est-à-dire que bon, j'avais un copain, Chaban, avec qui je bossais. Bien évidemment, le bruit a couru que c'était mon amant. Enfin, dès que je disais bonjour, de toute façon, parce que quand je suis arrivée au collège, il faut savoir quand même que le directeur du collège ne voulait pas que je travaille à Mchedala. Donc j'avais un poste qui m'attendait à Bouira ou à Alger. Ça les intéressait davantage. Mchedala, ils n'avaient pas envie parce que effectivement, il n'y avait pas de femmes. Et que j'avais en plus 22 ans. Alors, je faisais très attention à la manière dont je m'habillais, etc., pour ne pas choquer. Mais néanmoins, voilà, j'avais 22 ans. Donc, il m'a dit, de toute façon, vous ne tiendrez pas la route, sauf vous êtes trop jeune, et si vous ne battez pas vos élèves, etc. Je dis, moi, j'avais déjà enseigné 2 ans en France, je dis, je n'ai jamais battu mes élèves, je ne vais pas commencer à battre mes élèves, etc. Mais il faut savoir que les premiers temps, c'était terrible, parce que j'arrivais en voiture, je jouais, voilà, donc déjà, une femme qui conduit, c'était déjà quelque chose d'absolument inouï. Et dès que j'arrivais, il y avait des grappes entières de mecs, parce qu'il y avait très peu de filles au collège, qui étaient comme ça autour de moi et qui hurlaient et tout ça. Et je sortais, ça hurlait, et puis on m'accompagnait, ça hurlait toujours. Je disais bonjour à mes collègues, ça continue à hurler, parce que, en fait, bon, notamment les Égyptiens, baisser les yeux, s'en allait, quoi. Ça n'existait pas. C'est-à-dire, dès qu'on regarde un homme, bon, voilà, je couche avec lui, etc. Donc, au début, ça a été un scandale total. Ça a duré plusieurs semaines. Et les gens se sont habitués au bout du compte. Voilà. Donc, il y avait peu de filles. Elles avaient des escaliers particuliers. Elles descendaient et elles allaient dans des voitures et tout ça. Les garçons étaient au centre, étaient beaucoup plus nombreux, etc. Et moi, j'avais décidé que je prenais l'escalier central. Enfin bon. Donc tout ça a créé beaucoup de problèmes au début. Et puis finalement, les gens se sont habitués. Il y avait une espèce de curiosité par rapport à moi. Voilà. Mais bien sûr, voilà, les gens se demandaient comment mon mari... me laisser sortir comme ça. Et puis, d'autre part, la nuit, à 5 heures, il fait nuit. Dès qu'il y avait quelqu'un qui m'invitait dans sa maison, moi, j'y allais. Donc, j'allais, je me déplaçais en voiture. Là, par contre, je ne pouvais pas aller à pied, je me déplaçais en voiture. Mais quand j'arrivais, en fait, j'allais toute seule, puisque mon mari n'était pas invité. Les hommes n'étaient pas invités de la même manière chez les femmes. Donc moi, je partais toute seule avec ma voiture. J'arrivais, puis je restais des fois un peu longtemps, et puis je revenais. Bon, voilà. Donc, voilà ce que j'ai vécu. À la fin, au début, j'ai été très, très, très touchée et très agréablement touchée par tout ce qui se passait. Après, j'ai commencé à comprendre aussi tous les drames, petit à petit. Et par contre, à la fin, j'avais du mal. À la fin, j'avais du mal, comme je le dis, parce que j'avais du mal à savoir tous ces drames. Et puis, être seule à me balader, de voir les hommes qui me regardaient, tout ça, c'était trop difficile, quoi. C'était trop dur, voilà. Et quelque part, c'est pas par hasard que je me suis intéressée après à la question des femmes. De leur émancipation, de leur soumission, etc. Parce que c'était quand même quelque chose d'assez révoltant, quoi. Voilà.
C'est ni un travail de romancier, ouais. Ni un travail purement d'ethnologue.
Ouais.
Moi, je veux dire que j'ai lu en partie le livre et je pense, il me semble en tout cas, que c'est une chance, la forme qui a été adoptée dans ce livre, parce que vous en seriez tenu à un travail d'ethnologue. Franchement, ça aurait été, est-ce que ça n'aurait pas seulement intéressé un cercle d'initiés, mais voilà, alors que ce que vous avez vécu est une expérience extraordinaire, et quand on le lit, on partage, en fait. C'est-à-dire, voilà, ça donne une chance de partager cette expérience avec beaucoup plus de gens que si ça n'était un ouvrage universitaire.
Oui. Il y a plein de gens qui veulent parler. Alors attends, on va se débrouiller avec les micros, Annie.
Contrairement à madame, moi, je n'ai pas lu encore le livre. Je l'ai acheté tout à l'heure, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas présager de ce qu'il y a dedans. Mais par contre, ce que je souhaiterais savoir, c'est que dans les récits relatés, donc les différents récits relatés dans le livre, quelle est l'articulation qui a pu se faire, que vous avez pu faire par rapport à ce que vous appelez l'ethnologie ou l'anthropologie ou même la sociologie. Quel est le, est-ce que les histoires dégagent un morceau de kabylité, c'est-à-dire est-ce qu'on reconnaît que c'est des histoires kabyles ou alors c'est des récits d'histoires qui peuvent être des histoires lambda ou universelles ou,
Non, c'est vraiment des histoires kabyles.
C'est une question que je pose. Hein,
J'ai envie de demander à Guillaume, parce que lui, il c'est l'ethnologue, alors du coup, toi, tu l'as lu. Alors, qu'est-ce que tu dirais sur cette articulation?
Déjà que j'ai été très profondément étonné par le contenu, puisque enfin, on a peut-être sans doute une espèce de préjugé sur le fait que les femmes kabyles seraient plus libres que ce qu'en fait relate Dominique. Et donc du coup, ça m'a... je suis aussi d'origine pied-noir, moi, donc j'ai eu un certain nombre dans ma famille, j'ai un certain nombre de récits sur l'Algérie aussi, même si je ne m'y suis jamais rendu jusqu'à présent. Mais donc voilà, en tout cas, le préjugé qui voulait peut-être que la Kabylie soit un territoire peut-être un peu plus libre que le reste de l'Algérie, et donc que les femmes seraient un peu plus libres que le reste des femmes algériennes, en fait, il est battu en brèche, ce préjugé, par ce que relate Dominique. Ça, c'est la première chose. Après, d'un point de vue, c'est ce que j'ai dit au tout début, hein, c'est-à-dire que moi, j'aurais bien aimé, je ne m'y suis pas encore attelé, à vrai dire, mais j'aimerais bien, si je devais faire un travail qui reprenait un peu mes travaux universitaires, j'aimerais bien arriver à une écriture qui soit aussi souple aussi et en même temps qui puisse faire passer autant d'informations que ce que a pu faire Dominique de ce point de vue. Et effectivement, pour répondre à votre question, c'est absolument pas transposable. Enfin, on pourrait pas avoir l'impression de parler. Enfin, on sent qu'on est bien dans un territoire donné qui est la Kabylie, et on peut pas le mettre, dans le pays de Dogon ou en Birmanie ou dans le nord de la France. Enfin, je veux dire ça de ce point de vue. Alors le citer précisément en dehors des termes qui sont utilisés, il y a un lexique à la fin, ou en tout cas il y a des explications concernant les différents termes qui peuvent être donnés et qui sont peut-être moins fréquents en français. Bon, mais clairement, c'est pas, il est pas hors sol, quoi, ce texte.
Et pour nuancer tout de même, je dirais que c'est particulier. Je veux dire, on peut pas sur la Kabylie. Je pense que je donnerai la parole d'ailleurs à Assina qui est kabyle, qui peut peut-être en parler. C'est aussi particulier, c'est-à-dire que Mchedala, c'est Mayo, c'est un village de colonisation, et c'est différent parce que moi je me souviens très bien que dans mes élèves, il y en avait qui habitaient dans des hameaux au-dessus. Et en fait, qui, elle, en fait, disait, mais alors vous vivez, c'est archaïque chez vous, disait à leurs copines de classe, parce que chez moi, je sors et tout ça. Et de fait, elle sortait. De fait, elle sortait. Parce que bon, les Kabyles sont pas voilés, étaient pas voilés du tout. Hein. Mais elles sortaient dans les montagnes. Elles allaient à la fontaine. Elles racontaient, par exemple, Miassa, elle le raconte elle-même, elle le dit. Moi, mes copines, je leur disais, mais moi, je vais à dos de d'âne, je vais faire mes cours, je vais d'une maison à une autre maison, etc. Et oui, il y a des endroits où les femmes Kabyles, effectivement, étaient beaucoup plus libres. Là, je pense que vraiment, tu me diras, Assina, ce que tu en penses, mais ce qui s'est imprimé, c'est vraiment la colonisation, quoi. C'est parce que les femmes, on les a bouclées parce qu'il y avait des étrangers. Donc voilà, alors tout le village et ça, et après, c'était d'ailleurs terrible parce que j'avais un copain de collègue aussi de un jeune prof, quoi, qui m'avait amené chez lui. C'était pareil, et son père disait qu'il était un des grands, enfin, qui avait fait la guerre de libération, etc. Il disait, oui, mais moi, mes filles, elles vont à l'école, etc., et moi, s'il y en avait un dans le village qui faisait le premier pas d'accepter que leurs filles sortent et tout, je le ferais aussi. Ils étaient tous comme ça, ils disaient tous, ah ben on attend que il y en ait un qui dise que en fait on peut ouvrir. Elles étaient c'était hyper bouclé, mais c'était très particulier. Je pense pas qu'on puisse parler de manière générale de la Kabylie. Voilà, enfin, ce serait intéressant que tu parles de ça, peut-être, Hassina, parce que je pense que vraiment, ce qui a plombé complètement les choses, et ça a duré, puisque je termine sur ma Hassina à moi. Ma Hassina à moi, quand elle était prof, elle avait l'équivalent du CAPES. Elle était prof de sciences nat, d'abord en français, puis elle a dû passer à l'arabe et tout ça. Mais elle me disait, mais moi, Dominique, j'ai gagné quoi? J'ai gagné quoi dans ma vie, moi? Ah bah oui, je vais travailler. Ah bah ok, je passe par des chemins détournés. Je vais jamais à la banque chercher mon fric. Je vais pas faire mes courses. Je vais jamais dans le centre du village. Je prends des chemins cachés pour aller au collège. Alors là, j'ai double peine, quoi. Je suis à la maison, je travaille pour élever mes gamins jusqu'à je sais pas quelle heure du matin. Tout est bouclé, j'ai pas le droit de sortir. Et puis, je sors pour aller bosser. Voilà. Et donc ça, c'était Mshedala. Et c'était Mshedala encore dans les années 2000, quoi. Hein, c'est pas le cas partout, voilà. Donc toi, tu peux peut-être en parler, Hassina, de ça.
Ouais. Bonsoir. Ah, oui. C'est pas grave. Bonsoir. Vous avez évoqué tout à l'heure une éventualité d'une édition de ce livre en Algérie.
Oui.
En quelle langue?
En français.
Merci.
En français.
C'est pas une éventualité, hein. C'est ça va se faire.
Ouais. Oui, merci Dominique. Alors, je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose à ce que tu as dit, mais effectivement, le fait que tu l'aies précisé que c'était un village de colonisation, ouais. Généralement, les villages de colonisation, les gens qui habitent ces villages-là, ils viennent d'un peu partout, des villages alentours. C'est pas forcément, ils n'ont pas forcément un ancrage vraiment dans. Enfin, ils sont pas tous issus du même village, parce que l'histoire de Mshedala, elle est pas transposable à d'autres villages en Kabylie, parce que ailleurs, justement. C'est des vieux villages, hein, qui existaient, qui ont toujours existé, et que les gens se connaissaient, et qu'il y avait cette confiance. Les gens, elles sortaient, les femmes, elles sortaient, elles partaient, elles faisaient, enfin, elles travaillaient les champs, elles partaient chercher de l'eau, elles allaient pas toutes à l'école, par contre. Mais bon, là, c'est après l'indépendance. Mais dans ces villages-là, les filles, enfin, dans d'autres villages, il y avait pas ce problème où la femme, elle était enfermée. Oui. La femme, elle était. On pourrait plutôt dire qu'elle était doublement exploitée, parce qu'elle travaillait l'extérieur et elle travaillait l'intérieur, mais on ne peut pas dire d'une femme des villages de Kabylie qu'elle soit enfermée. Et que la précision du fait d'un village de colonisation, je pense qu'il a tout son sens. C'est pour ça que l'histoire, elle est vraiment très typique. C'est même pas à côté. Il y a Akbou, les villages d'Akbou, par exemple, ça n'a pas. Il va y avoir un autre comportement des hommes et des femmes, d'autres rapports sociaux que ceux qui sont connus à Mshedala.
Oui, vous parliez tout à l'heure de Kabylité, là vous parliez de transposer, est-ce que c'est transposable ailleurs? Là vous avez choisi une région d'Algérie, la Kabylie, mais j'ai lu quelques parties du livre. Il me semble que c'est complètement. Je ne vois pas la Kabylité dedans du tout, personnellement. Je me dis, ça pourrait être dans l'Oranie, ça pourrait être dans les Aurès, ça pourrait être dans la région de Constantine, ça pourrait être dans diverses régions d'Algérie, où là le rapport homme-femme, le rapport de domination, le rapport ville-campagne, etc., existe à peu près de la même façon. Donc, c'est la Kabylie en partage. Mais c'est votre expérience en Kabylie. Mais est-ce que c'est pas transposable dans toutes les régions d'Algérie finalement?
Il y a des liens. Moi, je crois qu'en plus de ça, c'est comme là pour le coup, je revendique le côté ethnologique de mon travail. C'est que de toute façon, c'est la Kabylie parce que j'ai atterri là, effectivement. Donc, en fait, ce que je décris, c'est ce qui se passe là. Et je dis pas c'est toute la Kabylie comme ça, ou je dis pas. Par contre, ce qu'on mange, les coutumes, tout ça, oui, elles sont kabyles. Les poteries, elles sont kabyles. La manière de s'habiller, la manière de pas se voiler et tout ça, c'est pas le mzab, c'est différent. Voilà. Il y a quand même des, effectivement, quelque chose de typique. Et puis aussi, le sentiment, enfin, l'identité berbère, quand même, hein, qui était très prégnante. Parce que moi, quand je suis arrivée après la guerre de libération, et c'était au tout début de l'arabisation. Et Dieu sait que, voilà, hein, il y avait quand même une grande déception de la part des Kabyles qui avaient tant participé à la guerre de libération, qu'on, quelque part, voilà, hein, on les oblige finalement à parler l'arabe, voilà, la langue musulmane, la religion musulmane, la langue arabe, etc. Donc il y avait quand même une identité berbère très importante, kabyle très importante. Ça, c'est, après, ça a été le cas encore dans tous les mouvements berbères de 1980, de 2001, etc. Il y avait aussi quand même une revendication, voilà, de kabyle. Voilà, ça, c'est une spécificité du coin. C'est près de Bouira. Ils ont été très très présents, mais ils ont été très présents aussi là au moment du Irak. Enfin, tout le temps, de toute façon, partout, quoi. Hein. Mais voilà, en fait, moi, c'est mon terrain. Oui, là, pour le coup, c'est mon terrain, quoi, hein, avec ses spécificités.
Mais cette revendication a été par rapport à quoi
la langue. Oui, la langue essentiellement. Parce que moi, mes élèves, j'ai quand même eu des élèves qui ont loupé des trucs parce que d'un seul coup, à la fac, tout était arabisé, etc. Et eux, ils parlaient le kabyle et le français. Donc, ça a été pour eux, ouais, quelque chose de très pénalisant quelque part. Hein.
Tu es reparti en 2005, me semble-t-il. Ouais, c'était 2005. Ouais. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a une évolution, tu as remarqué des changements, par exemple, notamment parce que tu as revu les personnes, voilà, qui étaient tes élèves, tout ça. Mais après, donc là, évidemment, donc c'est plutôt leurs enfants ou même parfois leurs petits-enfants. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a un changement, une évolution quelconque ou pas ?
Alors, justement, je m'attendais à une telle évolution que j'étais plutôt déçue, je dirais. Parce que, en fait, dans les bistrots kabyles, les hommes disaient « Tu vas voir, tu vas pas reconnaître. » Maintenant, les femmes, elles sortent et tout ça. Et ce que j'ai vu, c'est ce que m'a dit Ouria. C'est que non, elles sortaient pas, en fait, quelque part. Voilà. Elles travaillaient, oui, mais voilà, elles n'étaient pas, on les voyait pas au centre du village, quoi. Donc, non, ça changeait pas. Ça changeait pas. Et puis, les filles de Hassina, par exemple, comme leur mère et leur père étaient en Espagne, elles étaient cloîtrées complètement. Elles, des adolescentes qu'on pouvait plus. Elles attendaient de pouvoir. Heureusement, elles étaient l'une à Alger, l'autre à Bougie, et pour faire leur béjaïa, pour faire leurs études. Mais sinon, quand elles étaient dans le village, elles étaient sous haute surveillance de tout le monde. Et c'était juste impossible qu'elles sortent. Il y a un truc que je raconte dans cette partie-là sur Hassina qui était terrible. Au moment où j'y étais, moi, d'un seul coup, tout le monde s'est mis à hurler. Une gamine, elle devait avoir 15 ans, se met à pleurer. Tout ça, je comprenais rien puisqu'il parlait kabyle, évidemment. Voilà, la sœur aînée m'a expliqué ce qui se passait. Il se passait que la grand-mère avait loué à trois ouvriers, en fait, une chambre dans la maison où ils étaient. Et ça signifiait pour les deux gamines qu'elles ne pourraient plus mettre le pied dans le jardin. C'est-à-dire que c'était une toute petite maison avec un petit jardin où au moins elles étaient peinards parce que là, personne ne pouvait les voir. Mais le fait qu'il y ait trois hommes dans la maison parce que la grand-mère avait loué et ne voulait pas revenir sur sa décision, ça voulait dire qu'elles étaient plus que cloîtrées. Et elles passaient leur été là. Et moi, j'ai été manger chez une de leurs tantes. J'ai dit, mais c'est sympa. M'invitait, tout ça, parce que moi, j'étais invitée partout. J'ai dit, mais pourquoi vous n'allez pas chez votre tante ? Mais non, ce n'était pas possible. Donc, en fait, elles ne pouvaient même pas aller chez leur tante. Là, elles avaient profité. En fait, je suis restée quelques jours. Elles ont profité du fait que j'étais là. Pouf, elles me collaient pour pouvoir partir partout où j'allais, moi. Mais sinon, elles ne le faisaient pas. Donc, ça, c'était en 2005. T'imagines un peu ? Tu vois, c'était dans les mariages. J'ai un mariage que je raconte. Là, c'est les changements de tenue des femmes. C'est-à-dire, il y avait encore les traditionnels en kabyle, comme on connaît, avec le foulard noir, tu sais, avec le voilà. Et il y avait également des filles voilées, les très jeunes, en fait. Et il y avait aussi des filles, alors hyper maquillées, hyper fardées, en cours, complètement sexy, etc. Tout ça cohabitait. C'est hallucinant. Donc ça, oui, c'était tout à fait nouveau, parce qu'avant, elles étaient toutes habillées de la même manière. Mais c'est drôle, d'ailleurs, parce que ça, c'est un truc sur lequel... Moi, je me suis dit, ça me faisait bizarre, et j'avais l'impression qu'il y avait les jeunes d'un côté, les traditionnels de l'autre, et tout. Et en discutant avec la fille d'un de mes amis, elle me dit, mais non, c'est pas du tout ça qui se passe. En fait, on coexiste complètement. On s'en fout, en fait. Hein. Celle qui est voilée, elle est voilée. Celle qui est pas voilée, elle est pas voilée. Celle qui était... Il y a pas de problème entre nous, en fait, finalement, quelque part. Moi, je voyais des problèmes. Là, pareil, il y en avait pas, quoi, tu vois. Mais ça, c'est quand même dans les maisons que ça se jouait. C'est toujours pareil. C'était quand même ce mariage auquel on a assisté en 2007. Il y avait Michel là qui faisait, qui était tout autour en train de marcher, en train de s'ennuyer, comme tous les hommes parce qu'ils avaient froid, ils mangeaient vite, après ils en avaient juste marre, et les femmes qui dansaient à l'intérieur et tout ça, mais entre femmes. Donc c'était pareil en fait. Les tenues avaient changé, mais finalement le voilà, ça n'avait pas changé plus que ça, quoi.
Une petite question sur un point qui a du sens ou qui n'en a pas, c'est toi qui vas nous le dire, parce que je l'ai lu il y a 2-3 mois le bouquin, et à un moment, il me semble, tu rencontres un vieux monsieur, et je crois que c'est lui qui te dit, les Français, on les aime bien, c'est les colons qu'on n'aime pas.
Oui.
Et est-ce que tu pourrais apporter, est-ce que c'est juste une parole une boutade de vieux monsieur, ou est-ce que ça a du sens?
Non, ça avait du sens. Alors c'est très particulier aussi, les histoires de colons. Il y en avait des méchants, il y en avait des moins méchants, il y en avait des plus gentils, il y avait tout ça. Ce monsieur-là, en fait, il n'avait pas connu les colons à Mchedalar. Il les avait connus ailleurs, voilà. Et par contre, lui avait été coiffeur en France. Donc ils ont... En fait, on peut pas réduire jamais le propos à... Une éventualité, une chose, une hypothèse, quoi. C'est très compliqué, en fait. Il y avait des gens qui tout le monde a vécu des choses différentes, voilà. Donc, après, ce que je peux dire quand même sur Mchedala, puisque j'ai rencontré un pied noir. Donc, il est décédé maintenant, d'ailleurs. C'est très étrange. C'est très étrange, parce que c'est dans les archives, j'avais trouvé un nom. Et donc, j'ai fait des investigations pour essayer de voir si j'allais retrouver la personne. Et je suis tombée sur cette famille, c'est des Corses d'origine. Enfin, il y en avait de l'Aveyron, il y en avait d'un peu partout et tout ça. Et je suis tombée sur quelqu'un qui habitait à Béziers. Et donc, je lui ai parlé de Mchedala, et là, il pleurait au téléphone et tout ça. Il m'a dit, venez, venez, toute la famille vous attend, on est tous là. Donc, ils étaient tous arrivés, ils vivaient comme au bled, en fait, finalement, complètement, dans des maisons, tous et tout ça. Et quand je suis arrivée, c'était terrible parce que plus personne voulait me voir. Donc, il n'y avait plus que lui qui voulait me parler de Mchedala, de ce qu'il avait vécu, parce qu'en fait, il était totalement bouleversé. Parce que son grand-père, en fait, avait été le seul maire, d'ailleurs, pendant la guerre de libération, d'ailleurs, le seul maire de Mchedala, et il a dû partir quelques années après la libération. Toute la famille est partie, au contraire, avant, etc. Mais lui, il était viscéralement attaché à ce village. Ce qui est curieux, c'est que en fait, je m'attendais à rencontrer toute la famille, mais ils avaient dû se disputer. Je sais pas, il y avait un truc qui s'était passé. Lui, il était moitié sous, et à la fin, il m'a menacé en disant si vous écrivez des choses sur ma famille, je vous préviens, je vous attaquerai, etc. Mais après, il me décrivait. Alors par le menu, il m'a fait des dessins pour m'écrire où étaient les choses, etc. Et c'était quelqu'un qui était adolescent quand il est parti. Il m'a dit, c'est la première fois que j'ai vu mon grand-père pleurer, puisqu'ils sont tous partis en bateau, donc voilà, par sécurité, lui est resté. Et c'est quelqu'un, dès qu'il a pu, il est reparti en Algérie comme coopérant. Il est resté pendant des années. Et il venait à Mchedala, caché dans sa voiture, en fait, pour voir des gens. Alors, il y a des gens qui étaient gênés, il y a des gens qui voulaient pas le voir, il y a des gens qui le recevaient. C'était très, très, très compliqué. Mais bon, il avait été à l'école avec plein de jeunes kabyles, en fait, du village, quoi. Voilà. Donc, toutes ces histoires, toutes les relations, ça m'a été dit plusieurs fois, ce genre de choses. Ouais. Ouais.
Justement, à propos de l'école, donc c'est un village de colonisation. Donc, il n'y avait pas des enfants français. Ils n'étaient pas à cette école, ils étaient ailleurs.
Alors si, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait au contraire une école. D'ailleurs, je parle de cette création de l'école. Donc il y a l'église, il y a l'école, il y a tout ça. C'est toute une histoire, mais c'était essentiellement des Français, mais il y avait quelques Kabyles. Les Kabyles qui vivaient, mais qui étaient plutôt des enfants de notables, de marabouts, enfin de notables, en fait, on va dire. Qui les autres étaient dans des écoles. Mais en fait, Amchedala, ça, si, c'est une spécificité. Parce que, en fait, il y a eu quand même, l'école française a été très importante. Il y a eu Jules Ferry qui a mis en place une école, enfin, qui a scolarisé vraiment les enfants algériens, qui a donné les Mouloud Feraoun, etc., etc. Et Amchedala, pas du tout, en fait. Il y a eu une école au centre du village de colonisation où il y avait essentiellement des Français, des enfants français, et quelques enfants kabyles, donc des enfants notables. Mais c'était tout. Et ça, c'est un des grands regrets. Ils l'ont dit aussi. Ils n'ont pas compris pourquoi, alors que dans des tas d'autres villages en Kabylie, il y avait au contraire, c'était même un mouvement très important, en fait, cette scolarisation des jeunes Algériens. Ça n'a pas eu lieu du tout à Amchedala, en fait.
À ce moment, s'il y a pas d'autres questions, moi, j'avais quand même une autre question à poser. Tu l'as dit tout à l'heure, en fait, un peu en amont dans ton intervention, en fait, quand tu passais dans le village, tu connaissais en fait la grande majorité des femmes qui étaient séquestrées à l'intérieur de ces maisons-là. Mais comment, en fait, tout simplement, tu as opéré le tri parmi toutes ces histoires pour en aboutir à... Alors, je ne me souviens plus exactement, il y en a quoi ? Il y a 5 histoires de femmes ou 4 histoires de femmes plus l'histoire du père de Bachir. Donc voilà, comment tu as opéré ce tri, en fait, d'une certaine manière ?
J'ai un peu sectorisé, c'est-à-dire il y avait des particularités, par exemple tout le chapitre sur la santé, c'était pas des Kabyles, en fait, parce que les infirmières qui venaient à Amchedala étaient des filles qui avaient mauvaise réputation, ne comprenaient pas comment les familles les laisser travailler, mais surtout s'exhiber, parce que être infirmière, ça veut dire montrer son corps, mais travailler avec le corps des hommes aussi, c'est-à-dire c'est pire que tout. Donc ces jeunes infirmières et aides-soignantes, en fait, elles venaient d'ailleurs, c'était des étrangères. Donc j'ai raconté des récits parce que c'est important. Mon mari, il était coopérant militaire, il était médecin, et on avait aussi des amis qui était là-bas. François Boiteux aussi était médecin, pareil. Donc avec François et Alain, moi, j'allais à l'hôpital, j'allais dans les dispensaires, dans les montagnes, etc. Et donc j'ai rencontré aussi d'autres personnes. Et ça me semblait important aussi de parler de ces femmes, justement, qui étaient pour le coup accessibles, mais vraiment qui avaient mauvaise réputation. Hein. Je les ai appelées les scandaleuses, etc. C'était terrible, mais pourquoi j'ai choisi ces femmes ? Parce que je les côtoyais. On avait un petit logement de fonction tout petit qui jouxtait l'hôpital, qui était juste à côté. Et quand elles passaient, elles me disaient bonjour, elles me racontaient leurs histoires, etc. Donc j'ai trouvé vraiment intéressant aussi toute cette question, voilà, des femmes. Alors c'est pareil, je raconte pas tout sur la santé, sur les hôpitaux et tout ça, mais ça me semblait intéressant, en fait, qu'il y ait aussi des personnages de femmes qui soient pas, qui soient différentes des familles. Sur les familles de Amchedala, il y a le chapitre sur Assina et la grande maison Souissi, c'est surtout celle-là. Et puis le collège. Donc il y en a 3, en fait. Hein, voilà. Celle sur la santé, c'est autre chose. Hein, c'était cette question quand même que quand on n'était pas d'ici, on était des étrangères, quoi. On était très rapidement des étrangers, quoi. Alors moi, j'étais pas la seule étrangère. Il y avait même des Kabyles qui pouvaient être considérés comme des étrangers parce que étrangers de maillot. Cette question vraiment de l'étranger était tout à fait étonnante, quoi. Voilà. Alors après, j'ai choisi les personnes aussi qui m'avaient le plus marqué, en fait, quelque part. Cette histoire, par exemple, d'une fille accusée d'avoir été violée, c'était un truc pour moi absolument inouï, quoi, que d'apprendre quelque chose comme ça. Alors là, c'est double peine aussi, c'était la pauvre. Et ce qui était quand même assez étonnant, c'est pour ça que j'ai aimé raconter cette histoire, c'est que quand il y avait des bruits qui couraient sur des filles comme ça au collège, c'était pas compliqué, on retirait les filles et puis elles allaient plus à l'école, et voilà. Hein, dès qu'elles avaient une mauvaise note aussi, c'était la même chose. Mais dès surtout qu'on disait « ta fille a été regardée », c'était fini. Et là, la chance qu'a eue celle que j'appelle Miassa, que j'ai revu, hein, que j'ai revu aussi en 2020, qui est à Paris actuellement et tout ça, c'est que elle était orpheline de père et que son fiancé était orphelin de père aussi. Et donc du coup, c'est les deux garçons en fait qui se sont débrouillés pour que justement elle ne soit pas, on ne la retire pas, c'est-à-dire qu'on assume le fait. Hein, c'est ce chapitre qui a failli être. Je me suis bagarrée pour qu'il reste parce que je trouvais que c'était tellement important. Mais en fait, cette fille qui avait été, qui me disait, mais tu te rends compte, Dominique, je parlais pas aux garçons. Elle avait un frère aîné qui lui disait, je te préviens, si tu parles aux garçons, je te marie à un vieux paralysé, etc. Et tout. Moi, je me tenais comme ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a accusée et on a témoigné contre moi et mes élèves, mes collègues ont témoigné contre moi, etc. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, ben, maintenant, je vais être ce que je suis. Maintenant, je vais parler comme j'ai envie de parler. Maintenant, je vais m'assumer comme je suis. Ça a imprimé toute sa vie, en fait. C'est-à-dire qu'après, elle ne s'est pas arrêtée. Elle est devenue prof, elle a émigré. Enfin, c'était quelqu'un qui était... Mais elle a été vraiment marquée par ça. Mais elle a eu la chance que son frère, en fait, un de ses frères, justement, se soit dit en lien avec le fiancé, bon, bah, il faut qu'elle continue ses études, quoi. Heureusement pour elle, sinon elle aurait arrêté. En troisième, elle était en quatrième à ce moment-là. Bon, elle a fait sa troisième. Non, elle était en quatrième, elle a fait sa troisième, et après, elle a fait l'école normale, après, elle est devenue un site et tout. Mais voilà, ça, c'était quand même quelque chose à la fois significatif par rapport à ce qui pouvait arriver aux filles, parce qu'il y avait quand même. J'avais sur toutes les élèves que j'avais en troisième, j'avais que 11 filles, quoi. J'avais des centaines de garçons et j'avais 11 filles. Et alors, il fallait qu'elles tiennent à carreau, parce que, voilà, elles étaient vraiment très surveillées, quoi. Assina est la seule qui était jusqu'au bac, en fait, hein, de la génération de ce moment-là. Sinon, bah, on les bouclait et puis elles attendaient le mariage, etc., etc., quoi. Voilà. Et celle-là, elle a eu cette chance que son frère et son voilà se soient bagarrés et elle lui en est extrêmement reconnaissante et son mari aussi, etc. Je sais pas pourquoi je disais ça d'ailleurs, à propos de quoi. Oui, voilà. Bon, bah ça, par exemple, ça m'avait tellement marqué. Et ça, c'est quelque chose. En même temps, j'ai su cette histoire après coup. Alors là, pour le coup, bien après. C'était pas sur le moment. J'ai pas rencontré Miassa sur le moment. Je l'ai découverte après, quand elle avait émigré. C'était dans un bistrot à Paris, etc. Et je les ai suivis après. Voilà. Ça fait partie de ces histoires. Mais je trouvais que c'était une histoire intéressante par rapport à ce qu'elle véhiculait. De la condition des femmes, de leur lutte, parce que quand même ces femmes-là dont je parle, toutes elles sont bouleversantes en fait, de courage quoi. C'est vraiment des filles qui voulaient. Alors bon ben elles ont eu des vies dures derrière, hein. Mais elles voulaient s'émanciper. C'était pas évident du tout parce qu'elles étaient au milieu de familles quand même très traditionnelles, avec franchement on disait que c'était les langues de vipères, mais c'était vraiment le candidaton en permanence quoi. Il était le village était sans arrêt les yeux fixés sur les femmes quoi. C'était pour moi très étonnant évidemment. C'était quand même Donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi ces femmes, parce que moi, elles m'avaient touchée, moi, elles m'avaient intéressée. Je me suis dit que ça pouvait intéresser des femmes. Et encore une fois, c'est parce que je le racontais. Et quand je le racontais, je voyais bien ce qui intéressait les gens. Elles disaient « Ah bon ?» Et donc, du coup, je me suis dit « Mais oui, c'est intéressant. » Et c'est intéressant, encore une fois, sur cette question des femmes, quoi. Et je crois que maintenant aussi, c'est toujours intéressant. C'est toujours d'actualité. Ouais. Alors j'en profite pour remercier Georges qui est là dans l'assemblée, qui est celui qui a fait toute la mise en page de mon bouquin et qui va être et Michel, mon mari, qui a fait la couverture de mon livre et les dessins. Et c'est exactement, ce sera la même chose justement en Algérie en fait. Hein, c'est-à-dire que cette maquette-là, Georges l'a envoyée donc à Reski Ait Larbi. Qui est donc le fondateur des éditions Coucou en Algérie et qui va le publier voilà sous cette forme-là. Alors je ne sais pas si le papier sera le même, mais en tout cas le format est le même et tout ça. Hein, voilà. La même couverture. Voilà. Et ça c'est pour moi c'est super important parce que alors pour l'instant la Kabylie c'est dur hein, entre les incendies, entre l'Irak, entre le Covid, entre tout ça c'est compliqué. C'est très courageux, et Georges l'a souligné, de publier voilà, en ce moment en Algérie. Et puis j'espère pouvoir y aller là-bas aussi pour rencontrer justement bah, les Algériens autour de ce livre. En tout cas, c'est c'est super qu'il y ait cette coédition. C'est assez inédit, en fait, entre les éditions sans nom et puis le coucou, c'est venu par le biais de Georges. Voilà.
Oui, ce que je voulais préciser sur cette édition en Algérie. En fait, c'est quand même la volonté politique que l'on a eue toutes et tous d'établir à l'occasion de ce livre, de rétablir des ponts entre les deux rives de la Méditerranée, ce que l'on veut continuer l'année prochaine avec l'édition d'un livre important, c'est qui sera édité par sans son nom et par Coucou Édition, sur participation des anarchistes dans la guerre de libération nationale, des anarchistes français, ou communistes libertaires en particulier. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est ça, c'est arriver à dans les conditions de difficultés extrêmes de l'édition en Algérie, où là, la chaîne du livre a été rompue. Il y a quelques librairies dignes de ce nom. Je ne parle pas d'Alger, hein, mais Alger, dans les villes où il n'y a quasiment pas de librairie, où les éditions, les éditeurs, les éditrices prennent la voiture, chargent les bouquins dans les voitures, vont les distribuer comme ils peuvent, etc. Et c'est des conditions très, très difficiles. Donc, on a décidé donc d'offrir la maquette. Dominique a fait le don de ses droits d'auteur à Hitler B, à l'éditeur, Michel de son graphisme. Et on fera exactement la même chose pour le David Porter, le bouquin sur les anarchistes. Là, c'est un livre qui a été édité aux États-Unis. Donc c'est paradoxal, c'est les Américains qui ont fait ce gros travail de recherche, David Porter. Il nous offre la même chose. Il nous offre l'édition, il nous offre les droits d'auteur. Il nous offre la totalité de la recherche qui a été faite, parce que c'est Édition sans nom qui est une maison d'édition engagée, et c'est aussi parce que on va l'éditer en Algérie. Mais c'est vraiment un choix politique, c'est pas de la coédition, c'est vraiment un partage total, ce qu'on considère comme un retour à l'envoyeur quand même, hein. On les avait suffisamment payés leur vie, que ça montre des choses.
Oui, d'ailleurs, en principe, moi, je devrais aller en mars, parce que le salon du livre d'Alger, en fait, a été repoussé à cause du Covid, donc ça devait être en novembre. Ce sera en principe en mars, mais j'irai là-bas. Et dans tous les cas, j'irai aussi, comme je vais le faire ici pour les éditions sans nom, je vais aller aussi dans les cafés littéraires. Enfin, je vais essayer de me balader, parce que c'est ça qui est intéressant aussi avec un. Ben voilà, vous êtes les premiers en fait que je rencontre autour de mon livre. Je suis ravie, mais j'espère avoir des moments d'échange. C'est ça qui est intéressant avec un livre, et ça va se passer de la même manière ici en France avec les éditions sans nom. Et en Algérie, j'espère aussi, avec les éditions Coucou, dès qu'on va pouvoir y aller, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais dès qu'on va pouvoir y aller, c'est aussi l'idée. Hein. Voilà, bien sûr, hein, des rencontres avec les publics. Voilà. C'est quelque chose de très partenarial, participatif, je dirais. Voilà. C'est aussi l'aventure qui m'avait intéressée. Donc, d'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont participé à la campagne Ulule, donc qui, avec Françoise et Bénédicte, nos trois livres de femmes. On espère aussi qu'on va pouvoir maintenant les promouvoir aussi du point de vue de leur contenu aussi. C'est aussi des auteurs femmes, et c'est aussi des livres sur des femmes et sur la transmission. Hein, c'est des thèmes qu'on a en commun, Bénédicte, Françoise et moi. Donc voilà, on espère aussi porter ça dans les mois qui viennent, si on n'a pas de nouveaux confinements, machin et tout ça, si ça s'ouvre un petit peu de notre côté.
Juste, tu me fais penser au fait que dans le cadre de la présentation des éditions, j'ai oublié de dire que l'une des volontés des éditions sans nom, c'était aussi d'être paritaire. Et donc, si la première campagne Ulule a fait l'objet de la publication de 5 livres, dont 4 auteurs et une auteure, en fait, là, donc, on voulait rétablir la balance, donc en publiant, en lançant une campagne, une deuxième campagne Ulule qui se termine ce soir à minuit, d'ailleurs, pour publier donc trois auteurs, et on va essayer, dans la mesure du possible, de continuer cette espèce de enfin, la collégiale, par exemple, est à parité, et on voulait aussi maintenir cette idée de parité jusque dans la les publications et les noms de personnes que l'on publie. Voilà.
En tout cas, moi, je vous remercie d'être en masse présente ce soir. Merci à vous.
Ouais, merci beaucoup. Merci.
Sur livre d'or.